en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Quel futur pour les métaux rares ? Allons-nous vers une pénurie, vers un gâchis ? Quel est l'état des ressources énergétiques dans le monde liées aux métaux et aux terres rares ? Tel est le sujet développé par Didier Julienne lors de la communication qu'il a donnée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, réunis en séance le lundi 6 février 2012. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassid-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Didier Julienne.
Je peux maintenant introduire le sujet de notre séance, les problèmes des métaux et terres rares, ainsi que l'orateur qui vient aujourd'hui, M. Didier Julienne. Nous avons parlé la dernière fois de l'eau, la fois précédente de l'énergie, du feu. Nous voici maintenant avec les métaux. En octobre 2010 est paru un ouvrage qui a fait assez de bruit, dont les auteurs étaient une équipe de centraliens. Cet ouvrage était intitulé « Quel futur pour les métaux ?» point d'interrogation. Et cet ouvrage attirait l'attention sur le fait que la production des métaux allait bientôt atteindre un niveau au-delà duquel il ne serait plus possible de l'augmenter. Il faudrait donc les économiser. Et qu'il attirait aussi l'attention sur le fait que pour obtenir la même quantité de métal, il fallait de plus en plus d'énergie. Or, la production d'énergie exige de plus en plus de matières premières. Les énergies nouvelles et les technologies dites vertes recourent à des métaux rares, dont elles accroissent évidemment la consommation et par conséquent précipitent une crise, une pénurie qui s'annonce. Ce livre dénonçait un énorme gâchis et il soulignait qu'on ne pouvait pas remédier à la pénurie par des solutions technologiques, qu'il faudrait économiser, recycler les métaux, que donc il fallait trouver une nouvelle formule de développement durable. Et ce livre semblait montrer la promotion d'une décroissance. En mars 2011, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques s'est livré à une évaluation de ces problèmes et un rapport a été publié, qui est public. Enfin, ces problèmes ont été portés aussi au premier plan de l'actualité à la fin de l'année 2011, du fait que la Chine a arrêté ses exportations de métaux rares vers le Japon en manière de représailles et qu'il est apparu à ce moment-là que la Chine procurait au reste du monde 90% des terres rares alors qu'elle n'en avait qu'un tiers des réserves. Et dans ce domaine, toutes sortes de difficultés sont apparues. Monsieur Boiteux m'avait suggéré de faire appel à M. Didier Julienne pour présenter un certain nombre de ces problèmes et en particulier leur complexité. Et je remercie M. Julienne d'avoir accepté de venir. Votre point de départ, monsieur, n'est pas du tout la technique des métaux. Votre spécialité était le commerce international que vous avez étudié à l'Université d'Aix, à HEC également, et les premiers postes que vous avez occupés consistaient à, dans des grands groupes de métallurgie, à veiller à l'approvisionnement en matières premières, en métaux stratégiques. Puis vous êtes passé au trading sur ces métaux dans des groupes financiers. Puis vous êtes devenu consultant de groupes américains comme Engelhardt, qui est leader mondial dans la chimie des métaux précieux, consultant également d'un groupe russe, Norilsk Nickel. Et vous avez participé à l'élaboration de différents rapports gouvernementaux concernant ces affaires et concernant en particulier la question de la constitution de stocks stratégiques. Vous enseignez dans diverses institutions, vous êtes un chroniqueur régulier des Échos et vous attachez à diffuser des connaissances en matière d'intelligence économique. Je vous suis très reconnaissante d'avoir accepté de venir nous parler de ces questions et nous vous écoutons. Je vous en prie, prenez la parole.
Merci, Madame le Président. Une rectification en ce qui concerne ma carrière. Je n'ai pas été consultant pour un groupe américain ou russe, j'étais employé dans les deux. Le premier était effectivement Engelhardt, un groupe américain qui a été ensuite racheté par un groupe allemand. Et le second étant Norilsk Nickel, une société minière russe qui exploite différents gisements en Russie, en Sibérie du Nord, au-dessus du cercle polaire, ainsi qu'aujourd'hui en Australie et puis en Afrique du Sud. Cette rectification pour indiquer que je suis passé par la métallurgie, la chimie des métaux, le trading et la mine, ce qui me donne un point de vue, je dirais, général ou global du secteur. Comme vous le disiez, Madame le Président, les ressources naturelles sont source de dynamisme industriel pour les pays producteurs, tandis que les pays consommateurs sont rentrés dans une consommation compétitive. C'est pourquoi je vous propose sans tarder de parcourir ce que doit être, à mon sens, une doctrine nationale des matières premières minérales, avant d'approfondir ensemble, puisque il fait très froid aujourd'hui, un scénario lié à la politique énergétique allemande. Je vais donc vous parler en deux parties. Premièrement, d'une doctrine nationale des matières premières. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et avec quels outils? Trois éléments fondent une doctrine nationale des matières premières: l'indépendance énergétique, l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance minérale. L'absence d'une de ces indépendances interdit un développement économique durable. Pour les métaux, cette doctrine obéit à une thèse qui sera active en Asie, par exemple, ou passive en Europe. Le Japon et la Corée cherchent un approvisionnement stable pour l'économie du pays grâce à cette doctrine. La Chine cherche à maintenir un approvisionnement domestique stable via une centralisation des besoins, une consolidation industrielle et moins de contrebande. Les États-Unis cherchent à diversifier des approvisionnements, à substituer, recycler pour industrialiser. L'Europe cherche à éviter la pénurie. Naturellement, l'Australie, qui est par exemple un pays producteur, aura une doctrine matière première inverse. Elle va chercher à investir pour accroître sa rente. Pour les pays consommateurs, la mise en œuvre d'une doctrine est assurée par plusieurs outils. Premièrement, définition des matières. Avoir des sociétés minières dynamiques, des partenariats privilégiés avec des États producteurs, des stocks stratégiques, des sociétés de négoce publics ou privés en charge de l'approvisionnement national. Qu'est-ce qu'une matière première critique? C'est une matière première pour laquelle les risques industriels liés au déficit de l'offre sont élevés. Il n'y a pas de substitution possible. Par exemple, le rhodium est critique pour la catalyse automobile. Ça n'est pas substituable. Mais pour la joaillerie, c'est tout à fait substituable. On peut le remplacer par un autre métal d'une même couleur, par exemple le palladium ou le platine. Le cuivre, lui, peut être substitué par l'aluminium dans presque toutes les utilisations. Vous le comprenez immédiatement, une matière sera critique dans une industrie, mais pas dans une autre, dans un pays, mais pas dans un autre. Et cela évolue avec le temps. À ma connaissance, l'industrie française n'a pas élaboré de liste de matières critiques. L'Europe en fournit une, mais elle n'est pas mutualisable, sachant que chaque pays aura une vision ou des industries différentes. Qu'est-ce qu'une matière première stratégique? C'est une ressource indispensable à une politique de l'État et à la défense nationale. Par exemple, en Chine, le minerai de fer est stratégique pour l'acier utilisé dans la politique d'urbanisation. Le cuivre, pour les mêmes raisons, sera lui aussi stratégique pour l'équipement des infrastructures électriques. Mais c'est aussi le cas du lithium en Bolivie, pour des raisons inverses. La Bolivie est producteur et non pas consommateur. Ou bien pour les platinoïdes en Afrique du Sud. Ils seront, dans les deux cas, utilisés pour conserver des emplois ou de la valeur ajoutée dans le pays producteur. Là aussi, une matière sera stratégique dans un pays, mais pas dans un autre. Et cela évolue encore une fois avec le temps. En France, à ma connaissance, il n'existe pas de liste de matières stratégiques, à l'exception de l'uranium, qui bénéficie d'une loi, d'un décret et de directives classifiées. À l'échelle européenne, je ne vois pas de politique commune ni de défense commune qui justifierait cette liste. La Chine, les États-Unis, la Corée et le Japon ont tous une liste de métaux stratégiques. Je vous les donne dans le désordre: le cuivre, le nickel, le fer, le charbon, le platine, le palladium, le rhodium, le rhénium, l'antimoine, le beryllium, le cobalt, le gallium, le germanium, on pourrait presque en faire un poème, le graphite, l'indium, le magnésium, le niobium, les terres rares, le tantal, le tungstène, le lithium, le tellure, etc. où consomme-t-on ces matières critiques ou stratégiques ? Nous connaissons tous la contagion lente pour la consommation de l'acier qui va de la construction de la tour Eiffel, il y a un peu plus de 100 ans, jusqu'au tour des villes chinoises aujourd'hui. Ici, en ce qui concerne les métaux stratégiques, c'est plutôt une épidémie galopante. C'est unique, à ma connaissance, dans le monde des matières premières. Tout le monde en veut, pour tout et en même temps. Dans la voiture électrique, dans les nouveaux avions, les diodes électroluminescentes qui sont aussi bien utilisées dans l'électronique qu'autre part, les puces électroniques, les téléphones intelligents, les écrans OLED, les nouveaux écrans de télévision, les panneaux solaires, les éoliennes, le stockage d'électricité, les piles à combustible, la défense nationale, l'acier, l'optique, le laser, la pétrochimie, le nucléaire, etc. Mais dans toutes ces utilisations, ce qui évolue grandement en ce moment, ce sont les quantités. Et l'exemple des aimants permanents à base de terres rares est intéressant. Il y a quelque temps, la demande pour un ordinateur était de quelques grammes par ordinateur. Aujourd'hui, pour un vélo électrique, c'est 200 grammes environ. Pour une voiture électrique, c'est de 1 à 2 kilos. Pour une éolienne, c'est environ 200 kilos de terres rares par mégawatt installé. Alors vous vous rendez bien compte que ces nouvelles consommations perturbent grandement l'équilibre entre l'offre et la demande. Et ces consommations seront toutes en compétition les unes avec les autres. C'est pourquoi c'est le producteur de matières premières qui orientera les flux en fonction de critères marchands, c'est-à-dire de prix. Et j'imagine bien que certains produits deviendront d'ailleurs des produits de luxe à cause de cela. Ou bien les flux seront orientés en fonction de notions stratégiques, c'est-à-dire les volontés de l'État producteur. Ces choix seront sans danger s'il faut choisir entre un téléphone ou bien un ordinateur qui fasse aussi téléphone. Mais que faire lorsqu'il faudra choisir entre une production énergétique dépendante de métaux rares ou s'il y a une dimension de sécurité nationale ? Pourquoi l'offre de métaux critiques ne peut-elle pas répondre immédiatement à la demande ? Premier point, parce que des raisonnements simplistes additionnent les ressources disponibles dans la croûte terrestre sans se préoccuper des modèles d'extraction. Parfois, ces métaux ne seront pas rares, mais ils seront des coproduits d'autres métaux majeurs et les filières de production sont opaques. Par exemple, il n'y a pas de mine d'indium, mais des mines de zinc. Et l'indium viendra du zinc. Il n'y a pas de mine de tellure, mais de cuivre. Pas de mine de molybdène, mais de cuivre. Pas de mine de rhénium, mais le rhénium sera lui tiré du molybdène lui-même issu du cuivre. Pas de mine de gallium, mais de bauxite. Pas de mine de germanium, mais de zinc. Pas de mine de rhodium, mais de nickel ou de platine. Ces métaux, stratégiques ou critiques, sont donc tous dépendants de la dynamique du métal que j'appelle le métal majeur. Ils ne sont pas rentables seuls. Et s'ils ne sont pas produits pour des raisons économiques, ils ne seront pas non plus produits pour des raisons techniques, parce que c'est compliqué de les extraire de ce métal majeur. Parfois, les mines des métaux majeurs sont insuffisantes ou en fin de vie, et le renouveau minier n'a pas été préparé. Une mine, ce sont 10 à 20 ans de travail avant de produire. Les gisements aujourd'hui de ces métaux stratégiques n'ont pas été cherchés il y a 20 ans, et donc pas encore découverts. Et des pays refusent l'ouverture de mines, par exemple la France. Et puis, recycler ces métaux est l'étape la plus simple lorsqu'on les recycle dans le cycle industriel. Il suffit d'avoir circulé dans une usine pour bien voir que les déchets industriels sont immédiatement renvoyés en amont, recyclés pour faire des nouveaux produits. Mais ces produits que nous allons bientôt mettre sur le marché ont une durée de vie minimum de 20 ans et on pourra les recycler dans 20 ans et pas avant. Et puis en plus, ces métaux auront des dépôts si fins sur un substrat ou des alliages si complexes ou des teneurs si faibles que tout n'est pas recyclable. J'aime bien prendre cet exemple des écrans de téléphone, je ne donnerai pas de marque, mais vous voyez ce que je veux dire, les téléphones dits intelligents. Lorsque vous touchez l'écran tactile, vous appuyez sur de l'indium oxyde d'étain. Eh bien, cet indium oxyde d'étain, c'est 150 nanomètres d'oxyde d'étain. Il est aujourd'hui parfaitement non recyclé, ou plutôt la seule manière de le recycler, c'est de prendre l'écran et de le mettre dans le four du verrier, et l'indium oxyde d'étain s'en va dans la fumée. Autre exemple qui, moi, m'interpelle, c'est les pots catalytiques des voitures qui sont chargés de platine, de palladium et de rhodium, qui sont, pour certains d'entre eux, des métaux extrêmement chers. 20 ans après les débuts des premières politiques de normes anti-pollution, dans le monde, environ 50% seulement des métaux sont recyclés, malgré les incitations économiques aux États-Unis, c'est-à-dire que le consommateur réussit à retrouver de l'argent, ou incitations politiques en Europe. 50%, ce n'est pas beaucoup. Donc vous imaginez pour des métaux qui coûtent moins cher, on arrive à des taux de recyclage qui sont parfois 10%, 20%. Donc ce n'est pas si simple. Nous avons donc un déficit, et quels sont les outils pour remédier au déficit? Premièrement, comme je vous le disais en introduction, c'est d'avoir des industries minières, des sociétés énergétiques qui sont dynamiques. Et ce dynamisme se mesure à travers leur investissement dans l'exploration ou l'acquisition de nouveaux gisements. À ce titre, l'industrie minière française est une grande déception, pour deux raisons. Par manque de vision, elle est restée prostrée, petite et figée, alors que des géants miniers sont nés ailleurs. Nous avons un exemple parlant cette semaine. Glencore et Xstrata vont annoncer leur fusion. Ce sont deux sociétés minières qui sont basées en Suisse. Et en Suisse, il n'y a pas de mine, comme vous le savez. Cette fusion va se faire sur un mode de 80 milliards de dollars. Ces deux sociétés n'existaient pas il y a environ 20 ans. Eramet, en France, existe en Nouvelle-Calédonie depuis 1880. Et elle a une capitalisation boursière de 3 milliards d'euros. 80 milliards d'euros d'un côté, il y a 10 à 20 ans. 1880, je vous laisse faire le calcul, 3 milliards d'euros. Je crois vraiment qu'on aurait pu faire autrement. L'industrie minière française n'a pas non plus de nouveaux projets d'ampleur comme toutes les sociétés minières dans le monde. Ou bien, je suis bien désolé de le dire ici, elle a des catastrophes à la lumière d'Ouramine chez Areva. Croyez-moi, il y aurait beaucoup à dire. Et moi, j'aurais fait les choses différemment. Pourtant, il y a des diversifications possibles en France. La France, immédiatement, pourrait ouvrir une vingtaine de petites mines dans les Pyrénées, le Massif central, la Bretagne, pour le cuivre, le zinc, l'étain, le tungstène, et parfois avec des coproduits qui sont des métaux stratégiques. Une mine, c'est une petite mine, c'est 300 emplois. Une vingtaine de mines, ça fait 6000 emplois. Un emploi minier compte 5 emplois indirects. Vous arrivez rapidement, 30, 35 000 personnes qui seraient employées dans les mines, sans difficulté. On n'a pratiquement rien à chercher. Mais en France, on ne connaît pas l'horizon géologique sous les 100 mètres. On ne connaît pas l'horizon géologique sous les 100 mètres. J'ai eu des discussions assez approfondies avec mes amis du BRGM à ce sujet. Et je vous rappelle que la mine de cuivre de KGHM en Pologne, elle est à entre 1000 et 2000 mètres. Las Cruces, en Espagne, une mine de cuivre, elle est située sous un stérile de 150 mètres. Neves Corvo, au Portugal, c'est à 700 mètres. Couramment, les mines vont jusqu'à 1000, 2000 mètres, et en Afrique du Sud, on va jusqu'à 4000 mètres. Nous ne connaissons pas l'horizon géologique en France sous les 100 mètres. Nous avons probablement des gisements, des grands gisements, qui sont sous le Massif central, en Bretagne ou autre part, je ne peux pas le dire où, mais lorsque l'on regarde la géologie française, nous avons de grandes chances d'en trouver. Quand je dis de grandes chances, ce sont des chances techniques, ce sont des techniciens qui se sont penchés sur le sujet. Une mine, ou un grand gisement, ou un gisement moyen, c'est 15 000 emplois directs. Fois 5, je vous laisse faire le calcul. Sur le territoire, on pourrait peut-être trouver 2 ou 3 mines, 2 ou 3 gisements de ce type-là. Mais il faut du courage, car la question de la prospection se pose. À l'image de l'hérésie que représente l'abandon du gaz de schiste, nous ne sommes pas préparés à de nouvelles mines chez nous. Le gaz de schiste, j'en ai parlé avec un énergéticien, on a tiré un trait sur environ 400 000 emplois. Le premier frein aux prospections minières en France, c'est le premier d'entre tous, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'écoute plus la parole de l'ingénieur. Il n'a plus le droit de parler, on ne l'écoute pas. Le second est administratif. Alors je vous demande toute votre attention, une seule minute. Dans le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, de la mer, il y a une direction de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement des ressources naturelles. Elle est équipée d'une sous-direction eau et biodiversité qui abrite un département mines et ressources minérales. Et là, je crois que si vous poussez la porte, il n'y a plus grand monde. Et dans les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui reçoivent les demandes minières donc dans les régions, au mieux, une mine est incomprise, au pire, c'est une pollution. Donc on a un problème générationnel. Je connais personnellement le dernier X-mine à avoir fait ses classes au fond. Il est en fin de carrière, pratiquement en retraite. Et un problème d'image. Pourquoi est-ce que les élèves géologues à qui j'ai la chance d'enseigner un cours de géopolitique des matières premières, aujourd'hui envisagent plus de partir travailler dans une mine étrangère plutôt que dans une usine française, parce qu'en France, les sociétés minières ne leur proposent pas vraiment d'emploi minier, ou bien chez EDF ou chez Renault, qui s'équipent de géologues pour avoir accès à la connaissance des matières premières qu'elle consomme. Pourtant, dans les années 50, une génération de géologues, de mineurs et d'énergéticiens français exploitèrent ce qui pouvait l'être en France avant de gagner des territoires à l'étranger. Cela permettait une industrialisation. Parce que, faut-il le rappeler, le cycle industriel, c'est exploration, exploitation et transformation de ressources. Ensuite, fabrication industrielle, marketing, puis service et enfin recyclage. Exploration, exploitation, transformation des ressources naturelles. On ne sait plus le faire en France. Pourquoi est-ce que la Mongolie connaît-elle un Eldorado minier et pas la France? Je me pose cette question. Troisième élément des doctrines de matières premières, les partenariats privilégiés entre États producteurs et États consommateurs. Ces partenariats se heurtent à ce qu'on appelle aujourd'hui le nationalisme des ressources. Les producteurs sont souverains sur un sol ou bien un sous-sol et exercent des stratégies de puissance. Alors, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le lithium bolivien ou les platinoïdes d'Afrique du Sud. Vous savez comme moi que le lithium bolivien ne quitte pas la Bolivie, mais il est exploré, puis exploité, et il sera ensuite transformé en pile en Bolivie. Voilà l'exemple d'une souveraineté, de même que les platinoïdes d'Afrique du Sud sont de moins en moins exportés. Enfin, depuis bientôt 15 ans, ils sont directement transformés en pots catalytiques en Afrique du Sud, et la plupart des voitures que vous pouvez conduire ont un pot catalytique fabriqué à Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Les consommateurs sont souverains sur des filières industrielles et des stratégies d'influence qui y sont associées. Alors, la filière industrielle, ce sera l'aéronautique, le nucléaire ou d'autres. À l'avenir, les producteurs de métaux, de produits agricoles et d'énergie exporteront moins et consommeront plus localement. Exemple, le gaz de Russie. J'étais récemment avec des académiciens de l'Académie des sciences de Russie qui m'ont clairement dit, nous avons conseillé au président et au premier ministre d'exporter moins, d'arrêter la politique de l'exportation à tout prix pour faciliter le développement économique du pays et consommer plus de gaz chez nous. C'est aussi le cas du pétrole de l'Arabie Saoudite qui passe rapidement du rang de 9e consommateur de pétrole au rang du 6e. Pourquoi ? Parce qu'elle équipe son pays d'usines qui consomment de l'électricité produite localement à plus faible coût que par ailleurs. Et vous avez par exemple des usines d'aluminium qui vont s'installer là-bas. J'ai illustré cette idée de nationalisme dans un article au titre provocateur « Quand le consommateur africain se réveillera, la Chine tremblera ». Il est disponible aussi bien sur le site des Échos que dans une revue, je crois que c'est l'Iris. Et est-il illusoire de prévoir que l'Afrique consommera ses ressources énergétiques, le pétrole par exemple, et minières en acier, plutôt que de les exporter dans 10 ou 15 ans de façon à pouvoir équiper son propre continent? Et si les producteurs consomment plus en Europe, nous devons trouver une profondeur géologique stratégique et nous y reviendrons en conclusion. Quatrième élément d'une doctrine matière première, les stocks stratégiques. Alors, je crois que c'est réellement une solution fragile pour plusieurs raisons. C'est une solution temporaire, non mutualisable, nécessitant une mise de fonds importante et un dialogue permanent entre administration et entreprise. Ils sont bâtis pour le long terme, mais ils ont un devoir de naviguer à vue en anticipant un environnement de marché où la spéculation règne en raison d'être. En un mot, il faut des gens expérimentés. Qui a des stocks ? La Chine, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, mais aussi les États du Moyen-Orient, par exemple, pour des denrées alimentaires. La France avait pour sa part constitué un stock stratégique de métaux, mais il fut soldé dans la dernière décennie du XXe siècle, car on avait oublié, à ma connaissance, de prévoir ces règles d'engagement. Alors moi, je l'ai vu être vendu à des sociétés françaises dans lesquelles, par exemple, j'étais au comptoir Lyon-Allemand Louillot, mais par un fait exprès, à chaque fois qu'il y avait une enchère de platine, de palladium ou de métaux rares, elle s'était rachetée par des banques anglo-saxonnes. Cinquième élément d'une doctrine matière première, les sociétés de négoces publics ou privées en charge de l'approvisionnement national. Elles offrent les bénéfices d'une invasion sans la guerre militaire. C'est la guerre économique. Les meilleurs pays dans ce domaine sont les pays d'Asie, qui ont une tradition séculaire d'approvisionner leur pays grâce à des socha au Japon ou bien d'autres sociétés de la même nature en Corée et maintenant en Chine. Dans ce domaine, la France porte un lourd handicap depuis l'étonnante disparition des métaux et des milliers d'emplois de son leader, le comptoir allemand Louillot. Là, j'aurais beaucoup à dire, mais je me restreindrai parce que je suis dans une haute assemblée. Vous le constatez, lorsque ces cinq notions simples sont ignorées, mal utilisées ou mal interprétées, les filières industrielles se plaignent de pénurie de minéraux parce qu'elles se sont précipitées toutes ensemble, un peu comme des uluberlus, vers les mêmes solutions sans se préoccuper de l'offre minière. Alors, Nous arrivons dans cet exposé au scénario que je souhaite rapidement approfondir avec vous, et c'est une illustration de ce que je viens de vous raconter. C'est la politique énergétique allemande. En 2011, l'Allemagne a une production électrique d'environ, pardonnez-moi si je me trompe de quelques pourcents, de 58% de production électrique, ce que j'appelle hydrocarbonée, lignite, charbon, gaz, 20% énergie renouvelable et 22% nucléaire. D'ici à 2022, elle compte fermer ses 21 centrales nucléaires, tout en augmentant la part du charbon, du gaz et d'énergie renouvelable à 35%, notamment l'éolien. Le film des dernières semaines est à cet égard instructif. Cet hiver, le numéro 1 des éoliennes, le danois Vestas, est en difficulté financière. Il licencie 10% de ses salariés car le mauvais temps en mer l'empêchait d'installer autant d'éoliennes qu'il le souhaitait et les subventions des États ont parfois disparu. À l'avenir, les grandes éoliennes maritimes seront majoritaires. En 2009, 60% des éoliennes avaient une capacité inférieure à 2 MW. En 2012, excusez-moi, 3 ans après, 70% ont une capacité supérieure à 2 MW. 60% inférieure à 2 MW en 2009, 70% supérieure à 2 MW en 2012. Plus elles sont importantes, plus le nombre de mégawatts est important, plus elles utilisent de terres rares qui permettent des nacelles compactes et une maintenance réduite. Alors la maintenance, c'est très important. Telle une marée basse découvrant des écueils, l'Allemagne prend conscience de sa dépendance et l'an dernier, une junior minière exploratrice était constituée pour découvrir et réserver des gisements de 3 éléments, terre rare, tungstène, charbon, car le gouvernement allemand s'aperçoit que cette, peut-être que c'est ce qu'il a, en fin de compte je ne suis pas dans le secret du gouvernement allemand, mais j'imagine que c'est ce qui l'a motivé pour imaginer cette société minière qui sera chargée donc de réserver des gisements, de les découvrir, au profit de grands groupes allemands qui sont Daimler, BMW, BASF, Bayer, Arubis, Thyssen, etc. Pour ne pas gêner la concurrence européenne, le gouvernement allemand ne fera que financer l'exploration minière. Deux questions et deux idées s'imposent. Deux questions. Qu'arrivera-t-il lorsqu'il faudra dépanner les éoliennes en mer dans les tempêtes d'hiver? À quel coût? À 35% d'énergie renouvelable, on est dans le ruban et on n'est plus dans la dentelle. Deuxième question, la junior allemande minière se heurtera-t-elle au nationalisme des ressources naturelles des pays qu'elle prospectera? Je n'ai pas de réponse à ces deux questions. Et puis deux idées. Première idée, dans l'esprit de certains, les voitures électriques, les éoliennes ou les panneaux solaires signifient l'indépendance partielle ou totale vis-à-vis de l'uranium, du charbon, du pétrole ou du gaz. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent dépendants du lithium, de l'indium, du gallium, des terres rares, etc. Ce sont bien de nouvelles dépendances encore mal comprises, voire pour certaines totalement inconnues. Deuxièmement, et je vous livre une question et vous me direz plus tard si elle a un sens, parce que moi-même j'ai un peu de mal. Alors j'ai marqué à prononcer lentement et y réfléchir longuement. Alors, je vous le dis d'un seul coup. Baser son développement économique sur des énergies renouvelables, encore immatures, notamment l'éolien, avec des modèles météorologiques qui deviennent obsolètes au fur et à mesure que le climat se dérègle, est-ce une politique énergétique plus risquée que le nucléaire ? Je n'ai pas de réponse à cette question. La seule chose à laquelle je me suis dit, mais si un jour mon banquier me dit « placez votre argent dans le titre d'une banque, hein, achetez une banque française, par exemple, sur la bourse », et dans le même temps, il me dit « mais faites attention parce que la réglementation bancaire va changer ». Bientôt, elle va changer, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais allez-y quand même. Je lui dirais, mais attendez, moi je vais d'abord voir ce qui se passe, et puis après j'achèterai peut-être. Je me dis qu'on aurait peut-être dû attendre, voir ce que le climat allait faire avant de se jeter à corps perdu dans les énergies renouvelables qui sont basées sur le vent, notamment sur le vent. Alors, la réponse à cette deuxième question est évidente, en tout cas une est évidente, la réponse est multilatérale. Les énergies renouvelables doivent progresser, surtout le solaire et non pas l'éolien. À mon avis, il faut faire plus de paris sur le solaire et non pas sur l'éolien. Mais disons que l'atome conservera un avenir et qu'il est dans l'atome lui-même. Je conclus. Si vous deviez retenir deux éléments de mon intervention, ce sont indépendance et accès aux ressources. Indépendance. Si la consommation française de métaux critiques augmente, la France doit conquérir une indépendance, se prendre en main et commencer par ouvrir des mines sur son territoire. Rappelons que le modèle industriel des terres rares, donc les terres rares, vous avez tous compris où est-ce qu'elles finissent, a été bâti sur la pollution de villages et de campagnes en Chine, et qu'aujourd'hui s'épanouit une étonnante hystérie complotiste anti-chinoise, que je ne comprends pas. Je trouve que les gens qui sont contre les quotas chinois devraient tous redonner leur téléphone portable. Ça, au moins, ils seraient en accord avec eux-mêmes. Le secteur minier de demain, ce sont de nouvelles campagnes d'exploration, des teneurs de minerais en baisse, des coûts en hausse à cause d'une augmentation des consommations énergétiques, d'eau et des réglementations environnementales plus strictes. En France, l'énergie, l'eau et l'écologie, nous les avons. Les mines seront surtout des emplois, des mines profondes, non polluantes et un renouveau de l'industrie. Voilà pour l'indépendance. Pour l'accès aux ressources, si les mines locales sont insuffisantes, il nous faudra trouver une profondeur géologique stratégique, c'est-à-dire un territoire sans tension démographique, dépeuplé, disposant de matières premières et dont nous comprendrions l'accès. Je n'en vois qu'un seul, c'est la Russie. C'était l'objet d'un petit article où je croise mes connaissances en ressources stratégiques et ma compréhension politique de la Russie, que vous pouvez retrouver dans une revue. Enfin, le concept de nation s'incarne si les hommes d'État décident des dépendances ou des indépendances minérales, agricoles et énergétiques, équitables en prix et en disponibilité pour des populations, qu'elles soient urbaines ou rurales. N'ayons pas peur de choisir nos indépendances et nos dépendances en ressources naturelles librement et avec raison. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre Didier Julienne. Dans cette même série de communications de l'année 2012, série intitulée par le président Marianne Bassit-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel », vous pouvez aussi écouter une communication d'Henri Léridon, démographe correspondant de l'Académie des sciences, sur les perspectives de la population mondiale et une communication de Pierre Gadonnex sur les ressources mondiales en énergie.